Salut Julien.
Salut Rudy.
Bienvenue pour ton troisième podcast Super Physique.
Merci.
Donc je rappelle que Julien est l'auteur du livre La Nutrition de la Force, disponible à la vente sur Amazon. Donc n'hésitez pas à l'acheter afin d'aider Julien à faire de nouveaux livres. Donc ce coup-ci, j'ai pas fait de sujet sur le forum pour les questions, vu qu'il nous en reste, il nous en restait un petit paquet à traiter.
Ouais, on passe la vie pour les prochaines fois, peut-être que les gens peuvent laisser des...
Ouais, bah, pour la prochaine fois, on fera un sujet, parce que là, je pense qu'on aura le temps de répondre à tout.
Ok.
Donc, j'avais d'abord une question avant d'attaquer celle des internautes. Mmh. J'ai vu que tu venais de lancer ton site web, Julien.
Oui, tout à fait, ouais.
Donc, qu'est-ce qu'on trouve sur ton site web? Et comment s'appelle-t-il, déjà?
Il s'appelle julienvenesson.fr, donc c'est mon nom. Bah écoute, c'est un site qui est un petit peu, on va dire, mon site, donc dans lequel je mets des choses que je trouve intéressantes, donc qui m'intéressent, donc qui peuvent intéresser des gens aussi. Et puis, bien sûr, bah, je présente actuellement mon livre et bientôt peut-être d'autres livres. Et je présente aussi un petit peu, je me présente un peu aussi un peu plus parce que, bon, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui savait pas forcément ce que je faisais dans la vie, qui j'étais, etc. Donc c'était pour amener un petit peu une réponse à tout ça, et puis de fait on peut me contacter plus facilement, etc. Donc voilà, c'est mon site avec mon blog.
Donc julienvenesson.fr.
C'est ça.
Donc nous allons attaquer les questions. Donc première question qui concerne les allergies.
Attends, je suis en train de penser, Rudy, tu es allé un petit peu sur mon site?
Oui, j'ai été voir.
Et tu as lu un peu les articles?
Rapidement.
Bon, alors, tu peux pas dire ce que t'en penses?
Non, non, j'ai vu que tu mettais beaucoup de résumés d'études, en fait. Tu voyais une étude, après tu la résumais.
Bah oui, parce que je peux pas faire beaucoup.
Donc, par exemple, j'ai vu ce que t'avais mis sur les boosters de NO. Est-ce qu'on arrête?
Ouais.
Donc, on n'arrête pas de répéter sur Superphysique, qui ne sont efficaces que pendant la séance. À savoir, on congestionne pendant, et après, on ne gagne rien du tout.
Voilà. Mais je mets des résumés d'études parce que sinon, déjà, c'est un petit peu complexe, parfois, parce que c'est quand même du vocabulaire médical ou des choses un petit peu compliquées. Donc, c'est de la vulgarisation que je fais. C'est-à-dire que c'est pour que ça soit compréhensible à tout le monde. Après, les boosters de NO, cet article a fait pas mal de buzz, on va dire, dans le sens où beaucoup de gens n'ont pas compris l'étude, en fait. Ou ni mon article, visiblement, puisque les boosters de NO dans l'étude, c'est simplement les produits qui sont censés augmenter l'oxyde nitrique dans le sang directement ou indirectement. Donc l'oxyde nitrique, qui est un gaz qui est responsable de la vasodilatation. Et donc il y a quand même un distinguo à faire entre cette étude-là et les produits qu'on trouve dans le commerce, qui eux-mêmes des fois comportent un ensemble de substances, par exemple des stimulants, des vasodilatateurs, etc. Donc il peut y avoir un effet quand même sur la performance, par exemple un stimulant comme la caféine, on sait que ça a un effet sur la performance qui est prouvé depuis longtemps, mais c'est pas un booster de NO à proprement dit. Donc voilà.
Donc pour éclairer un peu les internautes, quels sont les boosters de NO justement?
Bah, les boosters de NO, c'est maintenant tous ces produits-là, c'est un petit peu des soupes où il y a énormément d'ingrédients, mais en général, ils contiennent des acides aminés comme l'arginine, la citrulline, voilà ce genre d'ingrédients. Et puis le vendeur écrit sur la boîte que c'est pour augmenter le volume musculaire, la congestion, etc., apprendre avant l'entraînement. Donc c'est le but, vous voyez, puis en général, il cite aussi le mot NO, le mot oxyde nitrique, donc pour faire...
Qui fait bien vendre.
Ah, ouais.
Donc rappelez-vous, sur un booster de NO, donc s'il n'y a pas d'arginine ni de citrulline, en gros, c'est du vent.
Bah non, mais même s'il y a de la citrulline, l'arginine, c'est pareil, mais ça, j'en parle un peu dans mon livre, parce que je pouvais pas passer en revue toutes les substances, donc j'ai passé en revue que celles qui avaient un peu d'efficacité ou qui... Ou qui était très très connu du grand public pour expliquer un petit peu, mais l'arginine, comme celle, je crois que tu en as, l'arginine AKG.
Ouais, on a mis sur la boutique.
Voilà. Donc ça peut être c'est un des rares produits de ce type qui a montré une efficacité légère, mais à long terme, il y a un petit gain de masse musculaire qui est un petit peu supérieur. Parce que bien sûr, quand on parle d'efficacité pour nous, c'est en termes de gain de masse musculaire. C'est pas parce que l'objectif, c'est pas d'aller de savoir faire du exercice quand on fait son vélo. Le but, là, c'est pour la musculation. Donc voilà, donc faut lire les étiquettes, et puis bon, en général, quand on essaie de vous bourrer 50 ingrédients en même temps, c'est que souvent c'est pour essayer de masquer l'inefficacité,
voilà, pour cacher la misère.
Voilà. Donc, le problème en soi n'a d'ailleurs pas du fait que ce soit inefficace, le problème c'est de payer pour quelque chose d'inefficace. Alors je sais que ça ne dérange pas tout le monde, mais moi personnellement je trouve ça dommage.
Voilà, faut être au courant de ce... Il y en a beaucoup qui achètent des suppléments, donc la petite parenthèse là. Il y a des suppléments et qui s'attendent à des résultats autres que ceux qui peuvent être...
Qui sont possibles, quoi. Ouais.
Voilà. Comme là, le booster de Hainaut, le mec imagine prendre vachement de muscle, alors qu'en fait, il va surtout congestionner, quoi, pendant l'entraînement. Et puis après...
Voilà.
Ni vu ni connu.
Bah, c'est important, je pense, de... Enfin, c'est ma philosophie, on n'est pas obligé de la partager, mais je pense que c'est important d'être... un petit peu responsable, donc ça veut dire, qu'est-ce que j'entends par là, c'est savoir ce qu'on achète, savoir ce qu'on fait en fait, de manière générale, donc surtout pour quelque chose qui concerne soit une performance sportive, soit la santé, de pas faire n'importe quoi, ne serait-ce que pour soi-même, mais aussi pour ne pas donner de l'argent à quelqu'un qui ne le mérite pas. Quand vous payez un vendeur, vous payez le produit, mais vous récompensez aussi le vendeur, ça va être dans son chiffre d'affaires, en le remerciant pour le travail qu'il a fait. Alors, quelque part, c'est logique de pas donner son argent à tout le monde.
C'est vrai.
Eh oui. Voilà.
Alors...
cet article.
Ça marche. Donc, alors, question sur les allergies. Les allergies seraient dues, en plus de la pollution, à l'amélioration de notre hygiène de vie, et l'espèce humaine aurait des réactions allergiques pour compenser la baisse des développements des maladies.
Bah, pour la dernière partie, de savoir si on a des réactions allergiques pour compenser la baisse de développement des maladies, à vrai dire, je ne vais pas être en mesure de répondre, parce que je ne sais pas, ça me semble peu plausible.
Ouais, ça me semble gros.
Oui, ça me semble un peu plausible, mais bon. Voilà, par contre, en ce qui concerne la première partie, que les allergies qui seraient dues à l'amélioration de notre hygiène de vie, donc, dit plus clairement, le fait qu'on soit dans un environnement plus propre, favoriserait les allergies. Ça, par contre, c'est effectivement le cas. On a des exemples très simples. Par exemple, les gens qui travaillent dans des milieux... très exposés aux microbes, par exemple les pharmaciens, ils sont constamment en face à des gens malades. Mais les pharmaciens sont pas beaucoup plus malades, voire des fois moins malades que les autres. Parce que leur système immunitaire, il est plus actif, il est plus performant du fait qu'il est confronté à un challenge qui est plus important. Donc de fait, voilà, il y a un bénéfice là-dessus. Alors que si vous sortez jamais de chez vous, ou vous êtes constamment dans une pièce, stérilisée, d'un seul coup vous vous retrouvez dehors, oh, ça fait une agression pour le système immunitaire qui est pas bonne. Donc il y a ça, et puis il y a aussi les excès d'hygiène, par exemple, qui peuvent modifier la flore bactérienne et provoquer le développement de maladies. Donc l'allergie, c'est vrai que ça a été noté qu'il y avait un lien effectivement entre un excès de propreté et ça, quoi. Par exemple, là, je pense à quelque chose. Les femmes qui se lavent les parties intimes avec des produits non adaptés vont avoir une altération de la flore bactérienne vaginale et peuvent développer des petits soucis, quoi, des petites bactéries nocives qui vont après provoquer des symptômes. Donc il y a la propreté, des fois ça tue aussi des bonnes bactéries qui nous protègent, comme au niveau de l'intestin, quand on mange on nourrit des bonnes bactéries qui permettent de garder un équilibre. Donc il y a cette notion de d'équilibre, voilà, d'une manière générale.
Bon, je pense que t'as bien répondu à la question.
Ben, j'espère.
Alors, deuxième question, toujours sur la santé. Comment, selon toi, la médecine va-t-elle évoluer en France? va-t-elle suivre le modèle américain, baisse des remboursements, augmentation de la vente des compléments alimentaires, ou cela restera-t-il au niveau des vitamines water de chez Leclerc?
On est bientôt au Sénat avec les questions.
Voilà, Julien, président.
Oui, je me sens pas pour être ministre de la Santé tout de suite. Mais comment va évoluer la médecine en France? Bah, à mon avis, à moins qu'il y ait des changements de politique, ce qui est possible, on va avoir des élections, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont être mises en œuvre. Mais pour l'instant, elle évolue plutôt mal, selon moi. On a quand même, déjà dans les hôpitaux, au niveau du personnel, il y a des problèmes, des manques de personnel. Il y a des files d'attente qui sont toujours plus longues ou parfois tout simplement hallucinantes. Si vous voulez faire un IRM et que vous devez attendre plusieurs mois et que vous avez une suspicion de cancer, c'est quand même problématique. Bon, enfin, en général, ils se débrouillent aussi pour accélérer les choses, mais il y a quand même... Il y a quand même des problèmes. Puis bon, tout le monde a dû voir des reportages sur la désertification des zones rurales par les médecins. Donc ça, c'est pas non plus aussi sans raison, ou même de certaines banlieues. Donc ça, en termes de santé publique, c'est pas génial. Alors le modèle américain, là, il parle du modèle américain. Je sais pas qui a posé la question d'ailleurs.
J'ai pas, comme c'est une question, j'ai pas noté.
Je pense qu'il veut peut-être parler de tout ce qui est concerne les médicaments et les compléments alimentaires, etc. Donc, à mon avis, d'ici qu'on se retrouve à avoir des compléments alimentaires dans les grandes surfaces comme aux États-Unis, c'est pas demain la veille. On est quand même vachement... Là, on l'a bien vu il y a pas longtemps avec le reportage sur Zone Interdite. Rudy, tu as peut-être regardé, je sais pas.
Un petit peu, j'ai regardé 5 minutes, et puis quand j'ai vu que c'était n'importe quoi, j'ai changé de chaîne.
Ouais. Reportage pour ceux qui n'ont pas regardé sur le dopage, travail, dopage au travail, dopage dans le sport, etc. C'était le thème du reportage. Dans le reportage, il parlait de jeunes qui prenaient de la créatine, d'une dame d'un certain âge qui prenait des barres d'ovomaltine pour le travail. Et donc ça, c'était le dopage, quoi. Donc on a un problème de mentalité en France.
D'accord, hein. Ça donne la pêche, ovomaltine, non?
Bah oui, c'est ce que je disais sur mon site, puisque j'ai fait un podcast, comme tu as vu, avec Michael Gundy en réaction à ce reportage. Donc je disais que la pauvre dame, elle a surtout dû prendre du poids parce qu'elle était pas très très fine, donc c'était un peu malheureux, quoi. Donc tu peux me répéter la question s'il te plaît, Rudy?
Donc là en fait c'était, est-ce qu'il y a une baisse des remboursements et une augmentation de la vente des compléments alimentaires?
Ah oui.
En fait,
je pense qu'il y a une augmentation de la vente des compléments alimentaires, ça me semble évident.
Mais pas en grande surface.
Pas de manière encore aussi banale qu'aux États-Unis.
Il faut le dire aussi, en France, beaucoup ont peur des compléments alimentaires.
Tu parles des consommateurs ou...
Ouais, des consommateurs. Tu vois, parce que je donne l'exemple, par exemple, tu vois, je mets une pub, tu sais, pour un supplément qu'on vend, et on me dit, oh, encore un supplément à prendre, c'était beaucoup de gélules ou beaucoup de poudre, alors que dans l'absolu, c'est pas c'est pas beaucoup, c'est juste qu'il n'y a pas vraiment ce qu'il faut dans l'alimentation.
Ouais, mais tu vends peut-être pas, enfin, c'est peut-être pas que des vitamines dont il s'agit dans...
Ouais, bah là, c'est un acide aminé sur le...
Donc c'est un peu différent. C'est plus après dans une vision de performance.
Ouais, mais là, comme c'était pas, c'est complément alimentaire et pas les vitamines en général. C'est pour ça que je racontais l'anecdote.
C'est vrai.
Quand les compléments alimentaires n'étaient pas très bien admis encore en France.
Bah, oui, c'est vrai que, bon, mais après, ceux qui ont pas envie d'en utiliser, ils sont pas obligés, hein. Mais là, je pense que pour les compléments alimentaires, comme la question est plutôt axée santé, c'est peut-être plus justement tout ce qui est vitamines, minéraux, compléments spécifiques santé, je pense, que le sens de la question. Parce que les compléments alimentaires pour sportifs, je pense que ça marche déjà pas mal. En fait, le sportif, naturellement, a plus de sensibilité à ces problèmes-là, puisqu'il se rend compte facilement... il se rend compte que s'il mange pas bien, ses performances elles sont médiocres. Et donc il comprend facilement l'influence de l'alimentation sur la performance. Alors que le sédentaire, c'est un peu flou pour lui. C'est une vitamine, il a vu à la télé prendre de la vitamine C, ça sert à rien. Alors il continue à manger son sandwich, quoi.
Ah tiens Julien, j'avais une question, donc pas une des miennes, mais c'est une qu'on t'a posée. quels sont les suppléments alimentaires que tu prends?
Oh là là.
Attention à la question, Julien, nous voulons la liste.
Non, bah, je vais pas la donner tout de suite, parce que, déjà, je trouve ça un peu curieux comme question, parce que je suis pas forcément un modèle à suivre, d'autant que je suis plutôt partisan d'une complémentation individualisée, moi, ce que je prends est pas forcément adapté aux autres. Par contre, je peux vous dire que je prends mon multivitamine, que je suis un des seuls à pouvoir prendre, puisqu'il n'est pas encore sur le marché. Mais qui sera...
Un futur multivitamine que vendra évidemment Super Physique.
Ah bon? Donc, normalement, d'après ce que j'ai cru comprendre, ça sera peut-être fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre 2012, donc dans pas très longtemps. Donc je prends ce produit parce que c'est moi qui m'en suis occupé, donc je sais qu'il est bien, et il est effectivement bien d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, si vous êtes au régime, par exemple, ça aide pas mal à garder la forme.
Donc pour l'instant, on garde la composition secrète en attendant sa sortie.
Oui, on garde la composition secrète, mais quand tu essayeras, Rudy, tu m'en parleras.
Ah bah, je vous ferai part de mes progrès avec.
Mais donc voilà, sinon... Donc
T'as bien répondu à la question.
Hein?
T'as bien répondu à la question.
Oui, bah non, je prends d'autres choses, mais on pourra en parler dans d'autres podcasts, mais je prends notamment de la vitamine D en plus, bien sûr, puisque en France, on n'a pas de complément alimentaire qui soit autorisé à être dosé de manière supérieure aux apports journaliers recommandés, puisqu'on est complètement bloqué sur cette question. Donc je prends au moins deux choses, alors.
Au moins deux. Voilà. Moi, j'aurais parié au moins 15 ou 20, mais... Enfin bon, nous verrons ça lors d'un prochain podcast dédié à la personnalité de Julien.
Oui, je ne suis pas contrairement à ce que peuvent penser peut-être certaines personnes, je ne suis pas un boulimique du complément alimentaire. Moi, je suis vraiment dans une démarche... je pense que maintenant, beaucoup de monde a compris que je suis dans une démarche efficace et... rationnel, et voilà, j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour rien ou de prendre des pilules qui servent à rien, quoi. Ça m'intéresse pas.
Mais ben, t'as bien raison. Donc, on va continuer sur les compléments. Donc, ouais. Comment déterminer la qualité d'une protéine à partir des indications sur son pot? Si seulement c'est possible.
Alors, la qualité, je sais pas ce qu'il entend par la qualité. Tu sais ce qu'il entend par la qualité dans la question?
Non, mais je ne sais pas non plus. C'est qu'il y en a beaucoup qui croient, exact, c'est ce que j'ai dit sur mon site cette semaine, beaucoup croient que la protéine c'est magique, qu'ils vont prendre des muscles et tout avec, alors qu'en fait c'est juste un supplément à la base qui est fait pour être pratique, pour remplacer son jambon au goûter ou un truc du genre. Donc la qualité d'une protéine, après, s'il n'y a pas de saloperie dedans, je sais pas.
Ouais, c'est peut-être ça la question, est-ce que la qualité par rapport au résultat en termes de masse musculaire ou quelque chose comme ça, quoi.
Hein? Ouais, bah je...
Premier mythe, les gens qui sont en train de scruter les aminogrammes, parce que souvent ils mettent...
Ouais, c'est vrai, il y a des questions là-dessus.
Les vendeurs de protéines mettent des aminogrammes, donc il y a tous les acides aminés qui sont des teneurs en milligrammes. Alors donc, il y a des gens qui s'amusent à comparer les aminogrammes, et puis disent « Ah oui, mais là, il y a 10 mg de plus, puis là, il y a 10 mg de moins, alors donc celle-ci, elle est mieux, la première. » Bon, alors ça, déjà, c'est complètement bidon. D'une part, parce que les différences entre aminogrammes, à moins que la protéine, on lui ait rajouté vraiment quelque chose en plus, c'est des valeurs qui sont... à peu près identique, quoi. On n'est pas dans, il n'y a pas de différence vraiment énorme, tout simplement parce que c'est des protéines, tout ça, qui viennent du lait. Donc c'est le même animal au départ. C'est pas comme si vous compariez une protéine de viande avec une protéine de blé. Là, ça a vraiment rien à voir en termes d'aminogrammes. On peut vraiment faire une distinction, on peut faire une comparaison. Mais pour les protéines de lait, non, c'est pas possible. Alors d'ailleurs. En ce qui concerne les autres méthodes pour déterminer, entre guillemets, objectivement, la qualité d'une protéine, on a un article sur le site où j'en parle un petit peu, mais enfin, il n'est pas génial cet article, mais où je parle un peu des valeurs biologiques, et, etc. Hein, Rudy ?
Oui, un des premiers articles que tu avais fait sur le site, là, qui était pour reprendre un peu les bases de la nutrition. Ouais, il t'a pas vu cet article.
Non, parce que j'ai dû le faire vite, et puis, c'est pas très très intéressant, comme à cause de ce que je vais expliquer, de ce qu'on est déjà en train d'expliquer. Donc il y a différentes méthodes connues pour mesurer la qualité d'une protéine. Donc il y a la valeur biologique, il y a aussi la digestibilité des protéines, et puis la digestibilité corrigée pour le score des acides aminés. Bon, tout ça c'est un peu peut-être barbare. En tout cas, ça permet scientifiquement d'établir, de donner une espèce de note chiffrée à une protéine pour la calibrer en fonction de sa qualité. Donc toutes ces méthodes-là ont tendance à montrer que les protéines animales ont des valeurs supérieures biologiquement parlant et les autres végétales ont des valeurs plus faibles. Donc concrètement, ça veut dire que les protéines animales sont plus à même de fabriquer de la masse musculaire et d'être bien utilisées par l'organisme que des protéines végétales. Mais en fait, toutes ces méthodes de calcul-là présentent des biais, comment dire, c'est-à-dire des limitations plutôt. Donc dans certains cas, même très souvent, ils tiennent pas compte de tout. Donc ça n'est pas quelque chose de véritablement vrai, c'est pas quelque chose de 100% fiable. Donc on peut pas se tenir non plus uniquement qu'à ça. Donc ça veut dire que là on a quand même beaucoup de choses qui nous on peut pas se fier à l'aminogramme, on peut pas se fier à la valeur biologique, on peut pas se fier à la digestibilité corrigée. En gros, on peut pas se fier à grand-chose. Sauf que quand même, on peut dégager une tendance, on voit bien que pour les protéines de lait, on a une valeur biologique et une digestibilité qui sont élevées, donc on est certain que c'est de bonnes protéines. Ensuite, on a des études pendant lesquelles on administre des protéines de lait à des sportifs et on les compare à d'autres types de protéines, et on voit que la whey, par exemple, c'est une bonne protéine pour fabriquer de la masse musculaire, apprendre après l'entraînement, par exemple, il y a de bons gains, donc c'est bien adapté. Et après, quant à savoir s'il faut choisir entre telle ou telle marque, j'ai envie de dire, c'est plutôt des critères secondaires quoi qui sont importants. C'est-à-dire, évidemment, il y a certaines marques, c'est pas de la bonne qualité. Alors, vous allez avoir des troubles digestifs. Ça, c'est pas bon signe en général. Il faut mieux éviter ce genre de marque. Mais sinon, ce qui va être déterminant, c'est le prix, le goût aussi. Si vous êtes, si pour vous c'est important, en général, c'est le cas.
L'illusion.
L'illusion.
Il n'y a pas de grumeaux.
Ça peut être utile, mais ça encore, comme le goût, ça dépend des gens. Il y en a qui sont plus...
Ah oui, s'il y en a qui veulent payer pour un truc imbuvable avec des morceaux. Moi, je préfère un truc qui est bon goût, qui se mélange à la cuillère.
Personnellement, oui, je préfère aussi un truc qui a bon goût, mais bon. Et puis après, il y a aussi, évidemment, il y a des marques, des fois, il y a des marques qui ne sortent d'on ne sait où, de pays de l'Est, où je sais pas trop. Bon, moi, personnellement, j'y ferais pas trop confiance, quoi. Donc, si on peut avoir une marque où il y a un petit peu de transparence, ou un petit peu de sérieux, etc., derrière, déjà, ça inspire un petit peu plus confiance. Donc ça, c'est pas mal, mais...
Donc, tu peux le dire comme la sélection super physique qui a choisi une marque qui fait contrôler chacun de ses lots.
je connais pas trop les produits CITEC personnellement, mais ça a l'air pas mal d'après ce que j'ai cru entendre.
T'as pas encore testé, Julien ? Il va falloir que je t'envoie un pot, alors.
Vas-y, envoie-moi, comme ça je pourrais donner mon avis.
Ah, voilà.
Je pourrais dire si c'est bon ou pas.
Voilà, voilà ce qu'on va faire, alors. Il y avait une question, pareil sur la whey. Est-ce que la différence concentrée isola justifie la différence de prix au niveau du résultat?
Alors, grand débat, pour moi, oui.
Ah, pour toi, oui. Je préfère l'isola, alors.
Pour moi, l'isola, dans tous les cas, c'est mieux. Pour la simple et bonne raison que, d'une part, si on est un peu sensible du système digestif, le concentrat, c'est quelque chose qui est moins purifié et qui a plus de chances de provoquer des petits désordres gastriques. Donc déjà, si on sait pas comment on va réagir, on a moins de chances de se tromper en achetant un isolant qu'en achetant un concentrat. Ensuite, l'isola, comme il est plus pur, la teneur en protéines pour 100 grammes est plus élevée. Le prix aussi est plus élevé. Mais de fait, comme le pourcentage de protéines est un peu plus élevé, la différence de prix en fait n'est pas forcément énorme. Donc déjà, ça c'est un point qui est intéressant à savoir. Et puis pour finir, si on est intolérant au lactose, alors là c'est même pas la peine de prendre un concentrat, on est quasiment certain qu'on va avoir des problèmes digestifs avec un concentrat. Et je rajoute aussi que je pense personnellement que les isolats sont, même en absence de problèmes d'intolérance au lactose ou quoi que ce soit d'autre, sont plus digestes et sont mieux utilisés par l'organisme. Donc je pense que en termes de bénéfices entre le prix et le résultat, l'isolat est un meilleur choix. La concentrat, c'est quand même une très vieille protéine. Hein, c'est...
Ouais, mais tu trouves encore des concentrats sans lactose, j'avais vu.
Des concentrats sans lactose.
Ouais, ouais, ils t'enlèvent le lactose, ils ont envie de te rajouter un peu de sucre.
Ils rajoutent de la lactase pour... comment ils font?
Ben, je ne sais pas. C'est marqué lactose free, alors...
Bah écoute, oui, pourquoi pas. Bah après, dans ce cas, peut-être que c'est... Ouais, c'est peut-être plus digeste aussi. Mais, bon, je suis quand même plutôt partant de l'isolat, parce qu'on me pose la question, donc... Toi, Rudy, alors, c'est mon podcast, mais tu peux aussi t'exprimer.
Ouais, non, mais j'ai pas de... Bon, bah, ça dépend de l'isolat. Moi, je les trouve cher, l'isolat. Moi, je suis plutôt partisan. Comme tu sais, si je prends 30 ou 40 grammes de prod, pour moi, c'est pareil. Donc, au final, l'isolat me revient beaucoup plus cher.
Donc, tu prends plutôt du concentrat?
Ouais, ouais, moi, je suis...
D'accord.
Et surtout que souvent, les isolats, ils ont un moins bon goût, alors... Comme ça, je mange des trucs qui sont pas très bons au goût. Comme je disais encore dans mon site, je prends la prod autant qu'elle ait bon goût, comme ça, je suis content de la prendre, quoi. Vu déjà que c'est pas très bon ce qu'on mange. Mais sinon...
Comment c'est... ça, c'est bon ce que tu manges?
Ouais, c'est la diète culturiste, hein. Je suis pas cuisinier.
Alors, Rudy, et ta petite femme, elle ne te fait pas des bons petits plats?
Bah non, je me fais à manger tout seul, hein.
Voilà.
Ah ouais, il faut savoir ce qu'on veut, de toute façon. Justement, encore sur la whey.
Oui.
Prendre 40 grammes de whey, alors que l'on prend son gros repas 10 minutes après la séance, est-il utile? Attends, je donne la réponse. Je vais t'expliquer dans ton livre, en plus.
Bah oui, c'est...
La nutrition de la force, je sais plus c'est quelle page, tu te souviens de la page ou pas?
Non, bah c'est le chapitre sur la nutrition de l'entraînement.
Voilà. Donc non, ça ne sert à rien.
Ça sert à rien du tout.
Si vous mangez juste après, mangez votre repas.
Voilà. Et oui, parce que comme tu disais tout à l'heure, comme les gens ont du mal à comprendre ça, que le complément alimentaire, ça reste quelque chose de naturel, les protéines de lait, c'est pour remplacer quelque chose de solide, mais c'est plus par praticité qu'autre chose. Donc si vous avez la possibilité de manger un vrai repas, c'est aussi bien, parfois c'est même mieux, donc il faut pas se gêner.
Donc pour continuer sur les protéines, alors j'aimerais premièrement savoir l'importance d'une carence en protéines dans son alimentation en pratiquant la musculation.
Bah, les conséquences, je pense qu'il parle de ça.
Ouais, ouais.
Bah, ça dépend de l'ampleur du manque de protéines. En fait, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué de répondre simplement, mais c'est une balance entre l'activité sportive, donc, dans le cadre de la musculation, et les apports en protéines d'autre part. Parce que plus on va s'entraîner, par exemple, si tu t'entraînes plusieurs fois dans la semaine, tes besoins en protéines sont d'autant plus élevés. Et si, en plus, ton alimentation à côté ne suit pas, ça va pas. Donc, le risque, c'est de ne pas progresser, dans un premier temps, et dans un cas avancé, c'est la régression. Parce que pendant le sport, on est soumis donc à une contrainte mécanique qui détruit un petit peu les fibres musculaires, et cette destruction-là, si elle peut pas être réparée, bah elle est définitive. Donc de fait, on perd du muscle. Enfin, de manière générale, on perd du muscle à l'entraînement, et normalement l'alimentation permet de compenser, voire de surcompenser, ce qui fait qu'on prend de la masse musculaire. Mais si on peut pas faire cette période de surcompensation avec l'alimentation, eh ben on progresse pas, ou alors on régresse. Donc c'est ça la conséquence au niveau du muscle, en tout cas.
Donc, question suivante.
Comment est-ce que vous vous trouvez fatigué, pas bien, quoi.
Si on mange pas, on sait bien que l'excès n'est pas bon, mais être en carence, c'est pas bon non plus. Juste équilibre, qui est décrit justement dans ton livre, encore une fois.
Bah, je pense que les internautes l'auront bien compris.
Non, mais je dis parce que c'est vrai que, je sais pas, mais c'est vrai que c'est expliqué sur le livre, sur le site, c'était expliqué dans l'article de Patrick aussi, donc le juste équilibre avoir pour bien progresser et être en bonne santé, entre guillemets.
Ouais.
Donc, j'ai une question aussi qu'on a déjà traité plusieurs fois. On conseille souvent le repas le plus riche en glucides soit situé après la séance, même si celle-ci se fait le soir. Ce conseil est-il valable si on se supplémente correctement pendant la séance, dextrose, maltodextrine? Ne risque-t-on pas, dans ce cas de figure, de faire du gras si l'on consomme trop de glucides avant la nuit de sommeil?
Alors ça aussi, c'est dans mon livre. Mais sinon, comment dire, déjà, il faut toujours remettre dans le contexte de cette la balance toujours apport et dépenses. Donc là, je parle en termes de calories. Si vous êtes au régime, par exemple, donc vous êtes en déficit calorique, si vous êtes en déficit calorique et que vous prenez des glucides le soir, vous pouvez pas grossir. C'est mécanique, ça c'est logique, quoi. Si votre apport calorique sur la journée est inférieur à vos dépenses, vous pouvez prendre des glucides le soir et vous n'allez pas grossir. Donc après, voilà, la question des glucides le soir, elle s'inscrit dans un contexte. Mais après l'entraînement, d'une manière générale, il vaut mieux quand même prendre des glucides, même si vous vous entraînez le soir. Dans ce cas, vous choisirez plutôt des glucides à index glycémique bas, de sorte à pas faire trop piquer d'insuline, pour justement éviter un petit peu la tendance qu'il peut y avoir à faire un petit peu de graisse corporelle. Et vous pouvez vous coucher, et puis comme ça, vous allez bien récupérer. Et il faut pas vous relever, vous réveiller le lendemain matin en étant déjà en ayant faim. Si vous êtes entraîné le soir, c'est trop faim, c'est pas bon. Et puis en ayant vraiment très mal partout, c'est pas bon signe non plus, quoi. Donc oui, en tout cas pour la progression et pour la performance, c'est important d'avoir une source de glucides après la séance, et même si c'est le soir, il n'y a pas de raison de... Voilà, il vaut mieux choisir un autre moment de la journée si vous voulez sécher ou perdre de la graisse, choisir un autre moment de la journée où vous ne vous entraînez pas pour diminuer les calories, donc les glucides.
Ok, donc en fait, parce que souvent on dit que les calories consommées le soir comptent un peu double, tu sais,
Qui c'est qui dit ça?
T'as jamais entendu ça?
Non, j'ai jamais entendu, non.
Bah que le moment de la journée, le timing en fait de la prise modifie un peu...
Alors en fait, oui, c'est vrai que le soir, au niveau de l'horloge biologique, on est un petit peu plus, à même de stocker de la graisse quand on mange un repas calorique. Sauf que cette règle-là, cette idée-là, en soi, elle veut pas dire grand-chose. Parce que il y a toujours cette histoire de balance calorique. Si vous êtes au régime, cette règle-là, elle n'existe pas, elle va pas se voir. Par contre, si vous êtes en prise de masse, c'est que tous vos repas sont riches en glucides, et que le soir, vous mangez une bonne grosse pizza, effectivement, c'est pas logique, parce que vous avez déjà toutes vos réserves d'énergie qui sont pleines, vous allez manger une pizza, la seule solution pour la pizza, c'est d'être transformée sous forme de graisse.
Nous ne conseillons pas la pizza en prise de masse.
Non, mais donc du coup, voilà quoi, c'est juste ça.
Donc le soir, quel est le temps minimum à respecter entre le repas et le moment où l'on va se coucher? Ceci afin de ne pas perturber le sommeil et de ne pas déclencher des problèmes intestinaux.
Ça c'est assez individuel, les problèmes intestinaux, parce qu'il y a des gens qui arrivent à s'endormir vraiment sans problème juste après manger, et d'autres qui vont avoir des remontées gastriques, des choses comme ça. Donc ça faut faire l'essai. Il n'y a pas de chiffre vraiment, en tout cas, il n'y a pas d'importance particulière à la question. Je dirais qu'il faut quand même un minimum de 45 minutes, quoi, hein, quand même. Après, voilà, c'est un petit peu comme vous préférez, hein. Ouais, c'est pas vraiment... Il y avait une deuxième partie dans la question ou...
Non, il y avait que ça.
Non, c'est...
Donc, pour continuer sur les glucides, les sucres rapides, donc entre guillemets, quels sont les meilleurs moments pour les avaler ou doit-on à tout prix les éviter pour prendre des féculents même lors des repas lorsqu'on est en prise de masse?
Les sucres rapides, donc les index glycémiques élevés.
Voilà, à mon avis, ça doit être ça.
Donc, les questions. Est-ce qu'il faut les éviter complètement?
Voilà, en gros, est-ce qu'on peut en manger quand même ou pas du tout, ou en gros, ça sert à rien?
Bon, alors, la réponse simple, le seul moment où c'est vraiment bénéfique, donc j'insiste sur le mot bénéfique, de prendre des index glycémiques élevés, c'est pendant l'entraînement. Tous les autres moments, ça pourra être sans conséquences fâcheuses, mais par contre, ça sera pas bénéfique. Le seul moment où ça sera vraiment bénéfique, ce sera pendant l'entraînement. Ensuite, en dehors de l'entraînement, d'une manière générale, et y compris après l'entraînement, il vaut mieux avoir des repas avec des glucides à un indice glycémique bas. Et ça encore, c'est des choses qu'on a quand même pas mal dites sur le forum ou les bouquins. Et par contre, moi j'explique donc dans mon livre que certaines personnes que je qualifie du type nutritionnel N1 auront plus de possibilités pour manger des indices glycémiques élevés sans avoir de conséquences trop fâcheuses au niveau de leur poids ou au niveau de leur santé. Donc par exemple, ils vont pouvoir prendre une collation avec un glucide élevé dans l'après-midi sans que ce soit gravissime, même si ça n'est pas idéal. Voilà.
Donc justement, comme tu parles du type N1, donc on va encore parler par rapport à ton livre, en quoi une proportion de fibres 2A, par exemple, présente des prédispositions à l'obésité? En fait, c'est plutôt le lien entre les deux que la personne veut savoir.
Donc c'est en rapport avec mon livre, peut-être expliquer, parce que je pense que tout le monde n'a pas mon livre, qui écoute le podcast.
Faisons un petit rappel.
Donc dans le livre, après avoir expliqué que les morphotypes classiques, endomorphes, ectomorphes, mésomorphes, n'étaient pas basés sur quelque chose de scientifique et qui en plus ne se traduisait pas par des conséquences pratiques véritablement réelles et efficaces. Donc en gros, c'était un outil qui servait à rien, à part de faire croire aux gens qui sont maigrichons qu'ils pourront jamais se muscler, et à ceux qui sont gros qu'ils pourront jamais maigrir. Je trouve que c'est pas vraiment très intéressant. Donc j'ai voulu introduire pour la nutrition personnalisée un typage qui s'appuie sur une composante génétique qui est le typage des fibres musculaires. Donc le type N1 qui a plus de fibres de type 1 dont on parlait à l'instant oxyde des glucides un petit peu mieux, donc il peut se permettre de manger plus de glucides. Et donc j'explique qu'il y a pas mal d'études qui montrent qu'il y a un lien entre le type de fibres musculaires qu'on a et certaines caractéristiques de santé, notamment, bah justement, donc là dans la question, c'est l'obésité, c'est ça?
Oui.
Donc avoir plus de fibres 2A, effectivement, représente une prédisposition à l'obésité. Donc pourquoi? Alors, comme toujours, en science, il y a quand même des limites aux explications. Il y a un moment où, quand on cherche à comprendre, on a beau dire oui, c'est la petite enzyme qui est à droite, mais bon, on ne sait pas pourquoi elle est là, l'enzyme. Donc, au final, en termes d'explication pure et dure, on peut être insatisfait. Là, dans le cas présent, ce qu'on peut dire, c'est que les voies de signalement de l'insuline dans les muscles. Je vais essayer d'être assez simple. Il y en a principalement deux. Et disons qu'on a constaté qu'elles s'activaient de manière différente selon le type de fibre musculaire. Donc sur une fibre 2, par exemple, donc qui est plutôt utilisée donc pour les efforts de force, hein, les efforts courts, comme en musculation, ou en sprint, ou voilà, les efforts comme ça. L'activation de ces voies par l'insuline est plutôt courte par rapport aux fibres de type 1 et légèrement différée. Donc tout concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que naturellement, ces fibres-là ont une sensibilité à l'insuline qui est moins grande, en gros. Voilà. Elle dit clairement, c'est ça. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est probablement parce qu'il y a une certaine logique sur le plan darwinien, donc sur le plan de l'évolution, puisque une fibre de type 1, donc qui est plutôt utilisée pour les efforts d'endurance, quand on court par exemple, quand on fait le tour du stade, le 5000 mètres, quelque chose comme ça, la voie privilégiée pour fournir de l'énergie au moins dans un premier temps, ça va être la glycolyse, donc en aérobie, et donc en présence d'oxygène. Et donc, ça veut dire que il faut que ces muscles-là soient capables de capter le sucre et du coup de pouvoir l'utiliser. Donc, il y a une certaine logique à ce qu'elle soit assez sensible à l'insuline, dont le rôle est d'amener les sucres vers les cellules musculaires. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a cette différence-là et qui est vraiment génétique à la base. Donc les gens qui sont plutôt doués pour l'endurance ont une meilleure sensibilité à l'insuline que les autres. Ils ont moins de chances du coup de devenir diabétiques, ils ont moins de chances de devenir d'être obèses.
Est-ce que c'est génétique ou le type d'effort auquel on s'entraîne va développer?
C'est ce que j'explique dans le livre en ce qui concerne les fibres musculaires. Il y a une classification qui est établie à la naissance en fait. On peut pas la changer.
Et qui se modifie que très peu, quoi, en fait, c'est ça que tu veux dire.
Voilà, on peut la modifier un petit peu, mais pas beaucoup. Et du coup, j'explique que les gens qui sont plutôt de beaucoup de fibres de type 2, donc c'est-à-dire par exemple qui, quand ils étaient jeunes, ils étaient naturellement explosifs, naturellement puissants, etc. Pour préserver leur santé, en plus de la musculation, pour eux, c'est bien qu'ils fassent des activités d'endurance, parce que ça permet de contrer ces effets de résistance à l'insuline et ses effets négatifs voilà sur l'hypertension et sur diverses maladies. Alors que celui qui a plutôt le type N1, il a moins cette obligation là. Voilà, parce qu'il est naturellement il est plus doué pour l'endurance.
Donc il y a une question, je sais pas si c'est la suite ou pas, c'est en quoi les lipides ou réserves de masse grasse permettent d'avoir une explosivité accrue? Comment utilise-t-on les lipides à cette fin?
Moi, je ne sais pas trop si tu comprends comme moi. Moi, je comprends que c'est par rapport aux gens qui sont en prise de masse.
Ouais, en fait, je me demande si c'est
gras, quoi, physiquement ou.
Ouais, en fait, j'ai du mal à comprendre. Soit c'est par rapport à la question d'avant, et dans ce cas-là, c'est une prédisposition, donc c'est normal d'être plus explosif. Ou alors, si on est en prise de masse, on va répondre souvent là. Si on est en prise de masse et qu'on fait du gras.
Ouais, déjà, ta remarque est intéressante, c'est pas idiot ce que tu dis là. Tu dis, c'est en rapport avec la question précédente, effectivement, si les gens qui ont des fibres 2 ont plus de tendance à grossir, parce qu'ils sont moins, ils ont une moins bonne, ils ont plus de résistance à l'insuline, alors peut-être que, est-ce que, du coup, si on a un peu de masse grasse, on a peut-être plus de chances d'avoir des fibres de type 2, donc d'être plus explosif, puisque les fibres de type 2 donnent ces caractéristiques musculaires. Ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Et puis, pour l'explosivité, quand on est en prise de masse, de savoir pourquoi est-ce que quand on est gras, on est plus explosif. Explosif, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, on est plus fort. C'est quelque chose d'assez complexe, en fait, et qui est lié à plusieurs choses. Alors d'une part, il y a certaines études qui montrent que le gras, être plus gras rend plus fort, mais après savoir exactement pourquoi, on sait pas vraiment, mais je crois que tout le monde l'a remarqué, je le dis.
Ouais, c'est vrai que quand tu manges un peu plus, tu prends du gras, t'es plus fort. Et moi j'aurais dit que c'est parce que, et moi je sens que quand je mange plus, j'ai la testo qui monte plus, quoi, qui est plus haute.
Alors ça c'est un effet ponctuel. Et notamment il y a aussi mais probablement oui effectivement quand on mange bien la testo a plus de chances de ne pas chuter, mais par contre c'est un effet ponctuel, c'est-à-dire que si par exemple tu fais une prise de masse, tu manges comme un ours pendant 2 mois par exemple, pendant cette période là donc au niveau hormones anabolisantes, l'insuline etc., tout ça explose, donc déjà il y a une meilleure récupération etc., donc tu récupères mieux de tes séances, tu progresses plus vite parce que forcément d'une séance à l'autre t'as maximisé le plus possible, même en allant dans l'excès, t'as essayé de surcompenser au maximum en fait de ce qui s'était passé juste avant. De fait, tu vas avoir une progression qui est plus rapide. Et donc il y a ce que tu dis sur la testostérone, mais par contre si tu es en prise de masse pendant 2 mois, qu'après tu es au maintien, donc tu maintiens ton poids pendant, je sais pas, 2 semaines, alors au niveau de la force, t'as pas trop bougé normalement.
Non, t'as pas trop bougé, mais tu sens que t'es plus en suralimentation, tu sens que quand même t'es un peu moins explosif, quoi, moins fort. T'as pas moins fort, tu fais la même perte, mais elle est beaucoup plus dure, quoi. T'as pas cette sensation d'avoir de la marge.
D'accord. En fait, c'est comme ça que tu sens le truc.
Ouais, c'est comme ça que je... En fait, si là je maintiens mon poids et que je mange un peu moins juste pour stabiliser, je sens qu'à l'entraînement... Ça va être plus dur, je vais pas avoir la sauce, quoi. Alors que si je continue à monter petit à petit, Là, je sens que j'ai de la marge, et même si, tu vois, j'arrive à l'échec, entre guillemets, je sens que les rêves d'avant, j'aurais tellement été explosif que j'ai de la marge, en fait, pour monter encore, quoi.
Ouais. Ok. Bon, bah, donc, du coup, je pense qu'on a répondu, non?
Bah, comment utilise-t-on les lipides à cette fin?
Ah! Utilise-t-on les lipides à cette fin? Les lipides alimentaires?
Ouais, bah, je pense.
Bah, je sais pas, il n'y a pas de rapport, enfin je comprends pas bien en fait.
Ouais, moi non plus j'ai pas compris. Bon, allez, on passe à la question suivante.
Attends, on va peut-être, il va pas être content, on va lui expliquer que...
Ah, il précisera pour la prochaine.
Il a qu'à nous reformuler sa question.
Voilà.
Et en tout cas, si c'est les lipides issus de l'alimentation, il n'y a pas de lien, puisque ce qui compte c'est plutôt les calories. C'est pas les lipides de l'alimentation en eux-mêmes qui font un effet particulier là-dessus. Voilà.
Donc nous allons reparler santé, avec des questions sur l'intolérance au gluten.
D'accord.
Donc avant de parler des questions, donc on va définir le gluten. Donc qu'est-ce que c'est que le gluten, Julien ?
Le gluten, c'est une protéine du blé.
Donc que l'on retrouve dans tous les produits contenant du blé, comme les pâtes, la semoule aussi, on la retrouve.
Oui, tout ce qui est à base de blé, y a un paquet de.
Donc en gros, dans la plupart des féculents, on va dire.
Bah la plupart des féculents à base de blé. Il y a des féculents qui sont pas à base de blé, le riz par exemple.
Oui, le riz. Voilà, donc on est intolérant à ces glucides, ces sources de glucides. Donc, l'intolérance au gluten était toujours une maladie cœliaque.
Cœliaque, on dit.
Ah, bon, j'ai mal prononcé. Alors, qu'est-ce que c'est une maladie cœliaque?
Donc la maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune qui est provoquée par l'ingestion de blé. Enfin, de blé, non. L'ingestion... alors, on dit de gluten, en fait, c'est un abus. C'est certaines protéines qui font partie de la famille des prolamines et qui existent dans différentes familles de céréales du genre... alors, si je ne dis pas de bêtises, ça s'appelle triti. Je sais plus comment. Enfin, c'est un nom latin. Vous retrouverez ça vous-même si vous cherchez un petit peu. Et c'est le nom de la famille, en fait, des céréales. Et donc on trouve dans les prolamines, on trouve chez le blé, on trouve la gliadine, donc c'est ça qui provoque la réaction immunitaire. Dans l'orge, on retrouve l'orgéine, et puis on en retrouve dans d'autres, dans le seigle aussi, je crois, qu'il y en a, qui s'appelle quelque chose comme la séguine ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, donc du coup, toutes les céréales qui contiennent du gluten contiennent des prolamines. Et provoque des symptômes chez les malades cœliaques. Donc c'est une maladie auto-immune qui, probablement par réaction croisée, repère en fait la protéine de la céréale comme étrangère et nocive, mais en s'attaquant à cette protéine, elle s'attaque également à soi-même, donc à l'intestin grêle, aux gélosités de l'intestin grêle, donc qui tapisse l'intestin grêle et qui permet l'absorption des nutriments. Donc en fait, on se détruit ce qui permet de bien digérer les aliments. Donc de fait, les symptômes de cette maladie, c'est ça dépend de combien de temps ça dure, mais au bout d'un moment, ça se termine par de l'anémie parce qu'on manque de fer, des problèmes de coagulation sanguine, de la fatigue, on perd du poids, on a des problèmes de transit, etc. Il n'y a pas grand-chose qui, il n'y a plus rien qui va.
Donc l'intolérance au gluten est toujours une maladie cœliaque. Ou pas.
Donc bah en fait c'est un abus de langage en fait. Enfin, aujourd'hui intolérance ça veut dire tout et n'importe quoi. Donc une maladie cœliaque, on appelle ça l'intolérance au gluten par définition. Donc effectivement quand on dit j'ai une intolérance au gluten, normalement médicalement ça veut dire j'ai la maladie cœliaque. Et pour la plupart des gens, il y a des gens qui disent je suis intolérant au gluten alors que c'est simplement ils ont des symptômes qui sont pas vraiment d'origine auto-immune, donc typiques de la maladie cœliaque, mais qui sont dérangeants, par exemple des ballonnements, des douleurs abdominales, etc. Et dans ce cas-là, ils disent qu'ils ont une intolérance au gluten, mais c'est un abus de langage.
Ok, parce que la question suivante, c'est est-il possible d'avoir une intolérance au gluten sans qu'une atrophie villositaire soit constatée? J'ai entendu que certaines personnes ne présentaient aucun symptôme, et je voulais savoir si ça s'étendait à cet élément clé du diagnostic.
Alors, comment dire? Donc, l'atrophie villositaire, donc c'est ce dont je parlais,
voilà.
C'est, l'auto-immunité contre la les cellules de l'intestin grêle, donc qui détruisent cette partie-là. Et donc, c'est un symptôme premier de la maladie cœliaque, donc de l'intolérance au gluten, qu'on peut voir avec une petite caméra ou des petits prélèvements. On peut mettre ça en évidence. Donc, ça constitue l'élément de diagnostic principal de cette maladie. On vous fait passer sous le billard et on regarde tout ça. Donc, à la question de savoir si oui ou non on peut avoir une maladie cœliaque sans atrophie villosité, la réponse est non quand même, parce que c'est le fondement même de la maladie, c'est sa physiopathologie, c'est-à-dire que par définition, c'est la réaction auto-immune contre les villosités qui est à l'origine de ça. Mais, néanmoins, il y a des gens qui sont apparemment de plus en plus intolérants au gluten, mais cette fois sans être malade cœliaque. Donc,
un abus de langage.
Donc, par abus de langage, oui. Enfin, du coup, en fait, l'abus de langage, c'est l'autre. On devrait dire, j'ai la maladie cœliaque. Et puis, pour les autres gens, on devrait dire, ils sont intolérants au gluten, quoi. Parce que c'est une intolérance. Mais dans l'autre cas, c'est une maladie qui fait intervenir l'immunité, quoi, l'auto-immunité. Donc, c'est quand même pas la même chose.
Et donc, attends, l'intolérance au gluten est donc de naissance, ou bien se déclare-t-elle plus tardivement comme l'intolérance au lactose?
Alors non, parce que j'ai pas fini de répondre au monsieur là.
Ah bon, je crois que t'avais fini.
Non.
Toi, c'est même monsieur de toute façon.
Sur les villosités, donc par contre, ce qu'il faut dire, c'est que même si on a des symptômes et qu'on fait un examen endoscopique et puis qu'il est négatif, ça veut pas dire pour autant que les symptômes qu'on présente, ils sont imaginaires. Hein. C'est juste que c'est pas la maladie cœliaque, mais on peut quand même être intolérant au gluten. Donc, parce qu'on m'a posé la question sur un forum de gens qui pensaient justement avoir la maladie cœliaque, qui pensaient être intolérants au gluten. Donc j'ai expliqué que le meilleur moyen de le savoir, c'était de faire le test d'éviction, c'est-à-dire d'éliminer toutes les céréales qui contiennent des prolamines, donc le blé, l'orge, l'avoine, etc., pour les remplacer par millet, riz, sarrasin, des choses comme ça. Faire ça pendant quelques semaines et de voir s'il y a disparition ou amélioration des symptômes, ça suffit pour dire ça, quoi. Et en plus, je veux dire, comme il n'y a pas de traitement, c'est une maladie qui n'a pas de traitement, la maladie cœliaque. Le traitement de la maladie cœliaque, c'est l'éviction des céréales en cause. Il n'y a rien à faire. Donc ça n'a aucun intérêt spécialement d'aller voir le médecin et d'avoir un diagnostic, à part de le faire reconnaître par sa famille si on en a besoin, mais ou si on a besoin de présenter un papier dans le cadre de son travail, je sais pas, ça peut peut-être être possible, mais sinon la plupart du temps, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est vous, c'est comment vous êtes, comment vous vous sentez, comment est votre santé. Si vous êtes mieux sans gluten, moi je vois pas le problème à ne pas manger de gluten. Hein.
Donc, cette intolérance est-elle de naissance ou se déclare-t-elle plus tardivement comme l'intolérance au lactose?
L'intolérance au gluten est-elle de naissance? Alors donc, non, ça n'est pas de naissance, bien qu'il y ait des facteurs génétiques dans la maladie cœliaque, hein, puisque là, je pense que c'est de ça dont il s'agit. Il y a des facteurs génétiques, mais on n'a jamais trouvé de gène qui à lui seul pouvait donner cette maladie. Donc c'est une maladie qui est polyfactorielle, avec probablement l'environnement qui joue un grand rôle, et y compris les nombreuses mutations du blé qui sont probablement pas tout à fait normales. Ça n'est pas de naissance, et on peut l'attraper à tout moment.
En faisant quoi?
En faisant rien, en mangeant tout simplement, et puis au fil des années, développer les symptômes tranquillement. Et...
Donc c'est une question de chance?
De chance, oui, plus ou moins. Après, il y a des facteurs qui sont connus, mais ça reste flou, quoi, en fait. De chance ou pas, parce que est-ce que déjà, ce qui est compliqué, c'est que si le corps reconnaît comme antigène une protéine du blé, est-ce que vraiment c'est une maladie, quoi? Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Quand tu as des anticorps qui se retournent contre toi-même, là, oui, ok, ça, c'est pas bon. On est sûr que c'est pas normal. Mais quand tu réagis à une protéine externe, c'est simplement ton corps qui la reconnaît comme pas bonne. C'est pas forcément quelque chose de... C'est pas forcément une maladie. Le problème, c'est peut-être pas les gens qui ont la maladie cœliaque. Le problème, c'est peut-être le blé le blé qui a été, ce que tout le monde ne sait pas, mais le blé a été énormément muté par hybridation depuis pas mal de temps, et puis ça continue. Donc on a un blé qui a trois fois plus de chromosomes qu'il y a quelques milliers d'années. Donc peut-être que ça a un impact aussi sur notre santé. En tout cas, donc on peut, en général, c'est plutôt ça survient souvent quand on est jeune, quand même, la maladie cœliaque, et ça peut survenir à l'âge adulte. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et pour les facteurs, il y a un facteur qui est connu, qui est assez important, c'est l'exposition au blé dans la jeunesse. Si on a été tout petit, rapidement exposé à des protéines du blé, le risque de développer une maladie cœliaque est fortement augmenté. Après, au cours de la vie. Et donc c'est complètement distinct de l'intolérance au lactose, puisque c'est ça la question. L'intolérance au lactose, c'est pas du tout une réaction immunitaire, c'est simplement un déficit enzymatique qui est naturel, en fait, qui survient en général à l'âge adulte, une fois qu'on a plus besoin de boire du lait. Et c'est pas une maladie du tout. Hein. C'est juste un intolérance au lactose, c'est vraiment rien. C'est juste un inconfort gastrique et des symptômes. Ça peut être parfois des symptômes gênants et plus généraux, mais en termes de, on va dire, de implication de l'organisme, c'est pas grave, quoi.
Donc je pense que nous avons répondu aux questions sur le gluten.
Tu t'endors pas là pendant mes
réunions. Non, t'inquiète pas, je suis, mais comme je suis pas du tout spécialiste du gluten, je t'écoute et j'apprends. Ah. Malgré que j'ai lu le livre de Jean Seignalet, L'alimentation de la troisième médecine, qui était un pavé pour moi.
Surtout que t'es jeune quand t'as lu lire.
Voilà, donc je m'en souviens un petit peu, mais pas...
Ouais, puis c'est assez...
Pas de tout. Donc Julien, nous voulons maintenant savoir ton point de vue sur l'alcool, très occasionnel.
Bah moi, une bonne bouteille de whisky tous les soirs avant de coucher. Hein.
Ah bah c'est le secret de la masse alors.
Ah, c'est le secret de la récupération, ça détend vachement, hein. Contre les contractures, une bonne bouteille. Donc c'est quoi la question? Qu'est-ce que je pense de l'alcool?
En fait, quel est ton point de vue sur l'alcool très occasionnel? Je m'explique. Par exemple, une soirée très arrosée et donc avec de la malbouffe. Après, il précise si c'est seulement trois fois par an, bien sûr.
J'aime bien cette définition de l'alcool très occasionnel, parce que pour moi, c'est pas l'alcool très occasionnel, ça s'appelle une cuite. Donc ça, les cuites, je suis pas pour les cuites. D'une part, je vois pas trop l'intérêt de se rendre malade inutilement. Et puis ensuite, par contre, boire un peu d'alcool régulièrement, moi, je suis plutôt pour. Hein. Quand je dis un peu d'alcool, ça peut être un ou deux verres par jour de vin, par exemple, une bière. Ou...
Une bière?
Ouais, une bière, c'est pas très riche en alcool.
Donc c'est une pratique que tu recommandes?
Oui, c'est une pratique que je recommande. Mais j'en reviendrai là-dessus, j'ai prévu de faire un article.
Ah, on va avoir un article sur l'alcool.
Oui, bon, je sais pas dans combien d'années, mais...
Non, très rapidement, tu peux donner ton avis là-dessus, s'il y a quelques bienfaits, quels sont-ils?
Sur l'alcool?
Ouais.
Oui, il y a probablement un petit effet sur l'aromatase, donc qui est une enzyme qui métabolise la testostérone en œstrogène. Donc ça peut être bénéfique, mais je pense que pour le culturiste les bienfaits sont pas énormes, mais il y en a quand même qui sont indirects, puisque l'alcool en petite quantité montre plutôt des bénéfices au niveau cardiovasculaire, donc au niveau sensibilité à l'insuline, donc au niveau de plein de choses. Donc chez le sportif, ça a la place dans l'alimentation.
Mais est-ce que c'est l'alcool en lui-même, ou c'est comme on disait avec le vin rouge, c'était les antioxydants, le resveratrol, qui avaient ces effets et non pas l'alcool?
Ça, c'est une bonne question, qui a été répondue il y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc l'alcool en lui-même, tout seul, a effectivement, parce que ça a été montré avec d'autres spiritueux, a effectivement des bénéfices. Et le vin rouge a des bénéfices supérieurs, liés au fait qu'il y a effectivement des polyphénols et des antioxydants dans le vin rouge. Donc le vin rouge, c'est un bon choix. Si c'est pas une piquette, quoi. Mais par contre, il faut savoir que ces bénéfices s'annulent complètement quand on fait des cuites, justement. Quand vous tapez une cuite de week-end, même si vous n'avez pas bu un verre d'alcool dans la semaine, vous n'avez aucun bénéfice, vous n'avez que des effets négatifs. Alors que si vous avez bu un verre tous les jours, c'est nickel. C'est pas beaucoup, un verre pour un homme, par jour.
Ouais, non, c'est pas...
va vous rendre alcoolique. Mais après, je pense que si on n'aime pas l'alcool, on n'aime pas le vin, tout ça, il n'y a pas de raison de se forcer à boire.
Et donc les effets néfastes. Parce que là, tu dis que positif.
Ah oui, après les effets néfastes, c'est une question de quantité. En fait, on a la courbe des effets de bénéfices de l'alcool forme une espèce de J, comme on dit. Donc, c'est-à-dire que on a des bénéfices qui sont assez visibles assez rapidement, avec un, deux, près jusqu'à trois verres pour les hommes. Plutôt deux verres pour les femmes. Et ensuite, ça décroît très très rapidement, la mortalité augmente, le risque de cancer augmente, les mortalités cardiovasculaires augmentent. Donc, voilà, c'est pas bon du tout. Donc un peu d'alcool, c'est bien. Beaucoup d'alcool, c'est mauvais.
Donc une soirée très arrosée, on peut le dire, c'est de la daube.
Allez,
dis-le, Julien.
c'est de la daube.
Ouais, voilà, on est d'accord.
Non mais après voilà, je pense que si on veut par exemple boire un bon cocktail, je sais pas moi, un mojito, un truc sympa, c'est quand même bon, faut reconnaître. Enfin, moi personnellement j'aime bien. Tout le monde est peut-être pas d'accord, mais le plaisir c'est aussi faut que ça reste festif. Je veux dire, si on se rend malade avec de l'alcool, il n'y a pas eu de plaisir au final. On a dégueulé dans les chiottes, on a tous fait ça quand on était étudiant. C'est pas forcément les meilleurs souvenirs. Peut-être les conneries qu'on a fait sous l'emprise de l'alcool, d'accord, mais la cuite en elle-même, en général, c'est pas un gros moment de... Tu es d'accord avec moi, je pense,
Rudy. Ouais, ouais, mais moi j'ai jamais vomi dans les chiottes comme toi, a priori.
Ben, on fera ça...
Ouais.
Chalons, hein. On
voilà. Fera... donc il y a une dernière question, c'est comment réduire la peau abdominale suite à une grosse perte de poids. Donc, à mon avis, c'est une personne qui a été obèse, donc à qui il reste de la peau sur le ventre. Donc, existe-t-il des facteurs nutritionnels pouvant aider?
Ouais, ça s'appelle la chirurgie. Non, mais on peut rien faire, hein.
Donc, à part la chirurgie...
Il y a de la peau qui pend, en fait, c'est ça, après une...
Ouais, a priori, ça doit être ça.
Bah non, il n'y a rien à faire, hein. C'est trop tard, hein. C'est une des raisons pour lesquelles il faut pas maigrir trop vite, hein. Plus vous maigrissez vite, moins votre peau a le temps de s'habituer. Mais quand vous avez vraiment été obèse, de toute façon, en général, vous êtes obligé de passer par la case de la chirurgie. Mais, ouais, bah, c'est pas l'enseignement qu'il faut tirer de ça, c'est surtout de savoir éviter les prises de masse trop longues, éviter les prises de masse quand on est débutant, éviter d'une manière générale de trop grossir trop vite sans... Voilà. Vergeture, peau abîmée, quoi. Puis après, au régime, si on a été vraiment en surpoids, c'est la catastrophe.
Ouais, et puis c'est encore plus dur de se mettre au régime.
Oui, puis psychologiquement, c'est quand même pas évident, ce monsieur, s'il a un problème, un réel problème par rapport à ça. C'est pas facile. C'est chiant, quoi. Donc non, il n'y a pas de miracle. Je suis désolé.
Donc Julien, j'en profite d'une dernière question. Seras-tu présent au salon du Body Fitness le 17 mars?
Donc, mais quel est samedi. Quel est l'internaute qui a posé cette question?
C'est moi.
Eh bien écoute, Rudy, comme j'ai dit, si mon emploi du temps me le permet, je serai là. Ouais.
Donc, j'en profite pour dire que nous organisons vers 15h une petite réunion super physique au salon.
Ah bon?
Bah a priori, oui. Donc, on va essayer comme l'année dernière. Bah, une petite réunion, en fait, se retrouver ensemble. Et faire connaissance avec ceux qui nous suivent régulièrement, donc on sera plusieurs de la team à être présents.
Dans les
mois, ouais. Dans les... donc, le lieu du rendez-vous à définir, vu que maintenant le monde du muscle n'existe plus, donc je ne sais pas encore s'ils auront un stand quand même pour perdurer. Donc à voir pour prendre rendez-vous et donc faire comme les dernières, discuter ensemble, faire connaissance, et donc nous finirons avec un petit japonais à volonté.
Avec vin rouge.
Mais je sais pas s'il y a du vin rouge au japonais, du bon vin. Mais
c'est pas en général, ils sont pas connus pour ça, mais bon.
Donc nous en reparlerons de son sur le site, mais donc c'est pour savoir si les gens auraient l'occasion de rencontrer Julien Vénesson au salon.
Pas que ce soit l'événement du siècle, hein.
Ça peut être un événement. Bon bah sinon merci à toi Julien pour toutes ces réponses de ce podcast que j'ai trouvé encore une fois très intéressant.
Bah c'est avec plaisir Rudy.
Donc, mais merci de tes réponses et puis.
J'attends les prochaines questions des internautes pour la prochaine fois et puis leur leur retour un petit peu, hein, nous dire un peu voilà si s'ils ont envie qu'on parle, je sais pas, d'orienter le podcast différemment, ce qu'ils en pensent, s'ils trouvent que tu parles trop. Peuvent le dire.
Ça marche. Bon voilà. Bah, bonne écoute à tous sur Superphysique et à bientôt sur le site.
À bientôt.